68. 10h04. Indifférente au soubresaut de l'Airbus qui descendait sur Rabat, Bambi se concentrait sur le cahier rouge. Elle l'avait pourtant lu des dizaines de fois, à en connaître par cœur les descriptions de chaque rencontre entre maman et ses inconnus. Ces hommes dont elle n'ignorait presque plus rien. Chaque vague de leurs états d'âme, chaque faille de leurs secrets inavoués, chacune de leurs lâchetés. Bébé aussi avait envie de lire. Du haut de ses 18 mois, il tirait sur la veste de Bambi pour qu'elle lui lise l'histoire. L'histoire même sans images. Bébé l'aimait bien. Papa aussi aimait bien. Surtout quand la veste glissait sur les épaules de cette fille qui se baladait sans rien d'autre qu'un soutien-gorge à balconnet aussi blanc que sa peau était mate. Maman aimait moins. « Laisse Madame tranquille, ma chérie. » Une petite fille, pensa Bambi en refermant sa veste. Déjà attirée par les livres. Bébé grogna, mais changea de bras. Papa replongea dans son magazine, alors que Bambi imaginait la frousse rétrospective de ce couple quand il la verrait encerclée par 10 flics armés dans le hall de l'aéroport, traînée au sol, menottée, évacuée. On leur expliquerait qu'ils étaient assis à côté d'une meurtrière. Leur petite chérie avait même caressé cette tueuse en série. Car les flics l'attendaient à l'arrivée. Elle en était désormais certaine. Elle s'était jetée dans la gueule du loup en se précipitant dans ce vol pour Rabat. L'Airbus continuait sa lente descente. Lors des premiers vols pour accompagner Chérine, elle avait souffert d'une terrible douleur dans les oreilles à chaque décollage, à chaque atterrissage, à s'en cogner la tête contre la tablette. Désormais, Bambi ne ressentait plus rien. Cet impan s'était habitué. Même la pire des douleurs peut devenir une habitude, qu'on maudit d'abord, puis qu'on accepte, puis qu'on oublie. Petite, après une chute ou pendant une grippe, quand maman lui demandait si elle avait mal, Bambi répondait toujours « seulement quand j'y pense ». C'était vrai. Enfant, il lui suffisait d'ouvrir un livre pour oublier un mal de tête ou une plaie mal cicatrisée. Le cahier qu'elle tenait sur ses genoux les avait toutes rouvertes d'un coup. Il lui semblait presque que les lignes parlaient, avec la voix de maman mêlée à la sienne, tellement elle les avait récitées dans sa tête. Il a une voix douce. Il aime parler. Il aime surtout s'écouter parler. Sa femme s'appelle Solène. Il a une petite fille d'un an, Mélanie. Une petite cicatrice forme une virgule sous son téton gauche. Ce journal était celui de sa naissance. De sa conception, pour être plus précise. Un viol. Des viols. Plusieurs viols par jour, pendant des mois, jusqu'à ce que maman tombe enceinte. Après que maman était tombée enceinte, l'un des hommes décrits dans ce cahier, avec cette somme de détails et de confidences, était son père. François, Jean-Loup, Yann. L'un de ces salauds était son père. Elle avait lu ce cahier, mais n'était pas parvenue à s'habituer à la douleur, ni même à l'accepter, encore moins à l'oublier. Elle avait longuement réfléchi. Pour apprivoiser ce mal originel qui lui tordait le ventre, une triple évidence s'était imposée. Les retrouver. Les faire avouer, les faire payer. Bébé chéri pleurait à côté, se couvrant les oreilles de ses petites mains potelées. Elle n'avait pas encore appris à supporter la douleur. Sa maman la berçait désespérément, alors que son papa lui tenait la main. « Tu apprendras, petite chérie, » murmura Bambi dans sa tête. « Tu apprendras quand tu seras sortie de l'enfance. Tu apprendras à souffrir en silence. Tu apprendras que le seul vrai remède à la souffrance, c'est la vengeance. » Il y a un peu moins d'un an, après avoir lu le cahier, Bambi avait envoyé des photocopies à Alpha. Son frère avait remarqué que tous les clients de maman possédaient un lien avec Vogelzug, l'association où travaillait son bourreau, Adil. Il s'était renseigné. L'association avait bonne réputation, employait des centaines de salariés, regroupait des milliers de bénévoles autour de la Méditerranée, mais comptait également quelques pommes pourries qui profitaient de cette puissante protection pour s'enrichir. Adil Zahiri en faisait partie, ainsi que quelques-uns de ses amis. plus ou moins mouillés, plus ou moins concernés. Un vaste trafic qui impliquait des complicités, au moins passives, au sein des ministères, des affaires étrangères, de la justice, de la police. Des fonctionnaires se contentant de fermer les yeux. Qui irait enquêter sur quelques cadavres de migrants abandonnés dans le désert? Sur quelques réfugiés assassinés dans une forêt, noyés en Méditerranée? Des morts sans papier, sans identité. Des clandestins maghrébins, des haragas ayant brûlé jusqu'à leurs empreintes. Le crime parfait existe, avait grincé Alpha. Pas besoin de plan machiavélique, il suffit de tuer des hommes invisibles. Bambi et Alpha avaient prêté serment un soir à la cité de l'Olympe. Elle pour venger l'honneur de sa mère, lui pour venger l'honneur de ses frères. Ils avaient superposé leurs deux colliers, les deux triangles d'ébène qui formaient l'étoile noire de leur vengeance. Une étoile rappelant celle dessinée sur le drapeau marocain. Chacun le porterait autour du cou, jusqu'au bout. D'ailleurs, si Bambi parlait de vengeance, Alpha n'aimait pas utiliser ce mot. Il parlait de justice. Les passeurs fonctionnaient en réseau, disait-il, telle une pieuvre géante. Il fallait directement en trancher la tête pour que les tentacules ne repoussent plus. Il fallait être deux pour y parvenir. Deux anonymes dont personne ne se méfierait, tels Frodon et Sam face à Sauron. Bambi détournerait l'attention, pendant qu'Alpha frapperait à la tête. Par le hublot, Bambi apercevait la côte atlantique. L'Airbus longeait l'estuaire du bourg grec, séparant les deux villes jumelles de Rabat et de Salé. L'immense plage où elle avait si souvent traîné lui parut comme un bac à sable ridicule, coincé sous le cimetière Lahalou. Elle ferma un instant les yeux. Retrouver François, Jean-Loup, Yann n'avait pas été très difficile, même si Bambi ne disposait ni de leur nom ni d'aucune précision physique. Le cahier de maman décrivait suffisamment leurs habitudes, leur famille, leurs passions. Leur profil psychologique également, c'était l'élément le plus détaillé par maman et celui qui avait été le plus utile à Bambi pour les piéger. Pour se composer trois fausses identités taillées sur mesure, Bambi 13, l'étudiante militante dévergondée, Faline 95, la fille mère intimidée, Fleur, la stagiaire déterminée. Détourner l'attention, c'était le plan d'Alpha. Alpha, lui, avait fourni les faux papiers. Chérine, sa copine hôtesse de l'air sur Royal Air Maroc, l'avait aidée pour les billets d'avion et surtout pour les photos de sa page Facebook. Des photos d'elle prises un peu partout dans le monde, puis légèrement retouchées. Chérine n'avait pas cherché à en savoir davantage. Bambi lui avait simplement demandé de l'aider à retrouver son père, à faire le tri parmi les imposteurs. Elle n'avait jamais évoqué devant elle la possibilité de les tuer. Quand cette possibilité avait-elle germé dans son esprit ? Quand le dégoût était-il devenu si fort que la mort de ses porcs était apparue comme la seule issue? À la lecture du cahier, alors que maman pensait encore que l'un d'entre eux pourrait l'aider, l'aimer, la sauver? Tous l'avaient abandonné. Pas un. Même pas Jean-Loup n'avait cherché à sortir cette petite aveugle des griffes d'Adil. Tous avaient continué à profiter de son corps jusqu'au bout, en toute impunité, puisque jamais elle ne pourrait les identifier. Ou leur condamnation à mort était-elle intervenue plus tard, quand François Valioni avait tenté de la violer dans une ruelle déserte de la Casbah des Saouira? Quand Valioni l'avait invitée à manger avant de la raccompagner au Red Corner de Rabat? Quand il l'avait embrassée? Quand il l'avait caressée? Quand il avait frotté son sexe contre elle, alors qu'elle avait l'âge de sa fille, alors qu'elle aurait pu être sa fille, alors que peut-être elle était sa fille. Où Bambi avait-elle tué d'instinct? Quand la prise de sang au bras de Valioni lui avait confirmé qu'il n'était pas son père, quand elle avait vu cette goutte de sang couler au poignet de cet homme déshabillé, yeux bandés, menotté. Ce salaud qui continuerait de violer, de laisser crever des migrants, un de ces tentacules de la pieuvre qui repousserait ailleurs si elle le coupait. Alors pourquoi s'en priver? Détourner l'attention, avait dit Alpha. Petit frère n'allait pas être déçu. Elle avait tué François Valioni, puis s'était enfuie dans la nuit. La nuit d'après, elle avait espéré que Jean-Loup Courtois soit son père pour l'épargner, jusqu'à ce qu'il la coince le lendemain contre le mur de briques, dans la rue sombre, en sortant de chez Gagnère. Lui aussi avait abandonné sa mère. Elle l'avait piqué au sang. Lui non plus n'était pas son père. Il ne méritait pas davantage de survivre, même s'il avait quitté depuis longtemps la pieuvre. Par réflexe, Bambi tâta sa poche. Le Blood Typing Kit s'y trouvait encore. Ce matériel de prise de sang instantanée qui permettait de déterminer un groupe sanguin en moins de 6 minutes. Elle l'avait emporté pour Yann Segalen, mais n'avait pas eu le temps de s'en servir. Yann pouvait-il être son père? Un homme séduisant, rapide, déterminé, rusé? Non. Une voix intérieure lui soufflait que non. Pas davantage que les autres. Par le hublot, les pierres rouges de la tour Hassan dominaient le paysage, offrant l'illusion d'une piste d'atterrissage sur l'esplanade du mausolée commandée par une tour de contrôle médiévale. L'Airbus se poserait un peu plus au nord, dans quelques minutes. Bébé chéri avait fini de pleurer et suçait sa tétine, les yeux embués. Papa avait abandonné son GQ pour ranger les albums de Tchoupi. Les flics l'attendaient droit devant. Forcément. Si elle ne l'avait pas menée à son terme, sa mission, au moins avait-elle détourné l'attention. Au moins, son sacrifice aiderait-il Alpha à passer entre les mailles du filet. Lentement, elle se pencha vers l'une des poches intérieures de son sac en toile. Sans se soucier du regard subjugué de son voisin ou de celui courroucé de sa femme, Bambi pencha sa tête en arrière, étira son cou et accrocha sur sa gorge nue, à la naissance de sa poitrine, un triangle d'ébène pendu à une simple lanière de cuir. Un geste de guerrière. L'Airbus virait maintenant de bord pour se présenter face à la piste. Bambi se précipita sur son téléphone portable, toujours pas de 4G, mais elle captait enfin du réseau. Sans tenir compte des consignes de sécurité rappelant que l'usage de tout appareil électronique était interdit, elle appuya d'un doigt pressé sur le premier de ses contacts. Maman. Elle eut l'impression que la première sonnerie ne s'était pas encore achevée. Maman avait déjà décroché. « Bambi, c'est toi ?»